Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous. Voilà, nous allons donner une suite à notre message de dimanche dernier. Alors c'est toute une étude que nous faisons sur la délivrance par l'Évangile, hein, par le message de l'Évangile, le message de la foi. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que nous nous entretenions la semaine dernière? Je vous l'accorde, il s'est passé déjà 8 jours. Mais quand même. Alors, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Marc, chapitre 4, verset 35. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 37 particulièrement. Voilà. Verset 37, il s'éleva un tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent ?» Même le vent et la mer, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. » Voilà, on s'était arrêté là, et nous allons poursuivre. J'aimerais citer de mémoire cette parole que Jésus donne d'entrée dans son ministère de délivrance, de libération des hommes, et c'était la primeur de son message, dans la ville de Nazareth, où vous en souviendrez, c'est une prophétie qui s'accomplit, prophétie d'Ésaïe, et il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais ceci particulièrement, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les opprimés, et donner naturellement une année de grâce de la part du Seigneur. » Je retiens ceci, c'est que Jésus a été envoyé pour proclamer, c'est ce que nous allons faire, nous proclamons, en annonçant l'Évangile, aux captifs, eh bien la délivrance. Alors la captivité, elle peut se considérer sous différentes formes, de différentes manières, elle a peut-être même plusieurs natures, ou différentes natures, mais Jésus est venu nous donner un message d'espoir, espoir pour tous les prisonniers, pour tous les captifs, et renvoyer libre, parce qu'une fois que les portes se sont ouvertes, alors à ce moment-là, nous rentrons dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Renvoyer libre les opprimés, et il y en a. Alors, en reprenant les choses, nous voyons que le récit, et je reprends un petit peu les mots de la fois dernière, le récit que nous avons lu concernant la tempête sur la mer, où là, eh bien, les disciples ont failli passer par le fond à travers l'ouragan qui est arrivé, nous montre à l'évidence que Jésus, eh bien, est le maître souverain de la nature et de tous les éléments dans le ciel et sur la terre. C'est la tempête qui nous est rapportée à plusieurs reprises dans les évangiles. Nous voyons que calmer la tempête est une chose, mais apaiser les plus furieux ouragans de la vie humaine pour y mettre le calme et donner la paix dans les cœurs et dans les consciences tourmentées, c'est aussi son affaire. Parce qu'on peut toujours intimer l'ordre à la tempête de se calmer, mais elle peut se calmer, mais nous, qui sommes l'objet finalement de cet ouragan, de ce tourbillon, est-ce qu'il ne va pas nous en rester quelque chose? Alors on va découvrir ça. Nous apprenons que toutes les tempêtes de la vie, nos vies, eh bien, ne proviennent pas uniquement de notre environnement physique. Sur le lac, c'est ça. Mais derrière, finalement, eh bien, tout cela, il y a une main meurtrière pour faire passer par le fond Jésus et ses disciples. Et nous allons voir encore un petit peu plus profondément, nous avancer aujourd'hui à travers le deuxième texte, parce que il y a un environnement qui nous entoure, étrange et invisible, dont nous avons besoin de prendre connaissance et de prendre aussi, d'en connaître toute la dangerosité. La Bible fait une révélation surprenante. Sous la plume de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, il nous est dit, je restitue, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre la nature, contre l'opposition humaine, et toutes sortes de choses semblables qui appartiennent finalement à la matière, mais que nous avons à lutter contre des dominations, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes, et que là c'est une autre affaire, et que nous devons appréhender ces choses à la lecture de la Bible et bien les comprendre, et être éclairés par l'Esprit de Dieu. Notre texte cite également ces mots bizarres, nous les avons devant les yeux, esprit impur, esprit démoniaque, esprit de démon, et toutes sortes de choses qui vont avec. Et ce sont des noms qui forcément, pour les hommes, inspirent la peur. Et la première chose que Jésus va faire dans la barque qui est prête de sombrer, il va commencer à leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et la première victoire, c'est d'abord de surmonter ou de dominer notre peur. Parce que la peur est un vecteur excellent pour le diable de nous détruire et de neutraliser notre foi. Alors ça, c'est important. Et vous avez remarqué, nous en avons parlé la semaine dernière, je le rappelle, que Jésus a menacé la tempête. Il a menacé la mer et le vent. Alors on ne menace pas des courants d'air. C'est qu'il y avait derrière, comme nous le révèle le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2, qu'il y a là, eh bien là, un agitateur. Ça semble tellement naturel. C'est naturel, et je veux croire que dans beaucoup de cas, c'est naturel. Mais dans le naturel, il peut y avoir une exploitation, une mainmise, et qui va finalement, eh bien, donner une amplitude terrible et catastrophique. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors, il existe donc, ceci dit, une réalité surnaturelle qui conduit souvent les hommes dans une vie qui n'est pas forcément celle que Dieu veut nous donner, que Dieu nous promet, mais plutôt une vie de mort, une vie de captivité dans la maladie, dans l'infirmité, une vie d'infortune où quand rien ne marche dans une existence, que tout vous échappe, quand tout vous, eh bien, glisse entre les mains. Une vie de tourment, une vie parfois où nous sommes comme cette femme qui était depuis 18 ans courbée, qui ne pouvait aucunement se redresser sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan intérieur, sur le plan de l'âme. Et c'est encore là où Jésus a dénoncé une réalité invisible parce qu'il dira à ceux qui se trouvaient dans la synagogue et particulièrement devant la véhémence et l'opposition du chef de la synagogue, ne fallait-il pas délivrer cette femme qui était tenue, liée par Satan depuis 18 ans? Ce que Jésus a vu, les autres ne le voyaient pas. Et moi, je crois que les chrétiens doivent avoir, en effet, une perception, une perspicacité, un discernement qui nous vient de la connaissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour nous éclairer. Et ça va changer tout, tout en mettant cette réserve, et elle est formelle, en ne voyant pas des démons partout. Nous devons rester des hommes et des femmes équilibrés, d'accord? Mais s'il y a des réalités, et il faut le rappeler ce matin, c'est l'objet de notre étude qui se poursuit depuis quelques semaines. Donc, c'est peut-être d'ordre physique, d'ordre moral ou spirituel. Je voudrais mettre un avertissement, avant d'aller un peu plus loin, Si Jésus, dans le premier texte, est vainqueur de toutes les tempêtes naturelles qui agitent le monde des hommes, notre terre, il est aussi, il faut le savoir et le rappeler, il est aussi tout puissant pour délivrer ceux qui sont esclaves de forces qui les dominent. Forces qui ne se voient pas forcément, mais qui font que les hommes n'arrivent pas à s'extraire d'un marasme ou d'une situation qui les rend profondément malheureux, souffrants, déprimants. Alors, celui qui est capable de calmer le vent et les flots, il est capable de calmer aussi nos tempêtes et nos ouragans dans notre propre âme, cœur et nos pensées, notre esprit. Et il fallait le dire. À ce titre, Jésus nous donne sa souveraineté, la marque de sa souveraineté et de sa supériorité sur toute chose. Et il dira en conclusion de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, est-ce que nous aurions encore peut-être à douter ? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout cela pour nous inciter et nous encourager à mettre une foi complète et totale. Parce que s'il est capable de régner sur la terre, eh bien il faut savoir qu'il règne dans le ciel et il maîtrise tout, il n'y a rien. Ça nous a été rappelé par une prophétie tout à l'heure. Qu'en réalité, eh bien, c'est Dieu qui tient tout. Hein. Et faisons-lui confiance, tout simplement. Bon, on va un peu plus loin. Nous voyons également que Jésus va affirmer, il l'a enseigné et il en donne la preuve à travers le chapitre 5. Il y a là devant nous je mettrai cet adjectif parce que c'est comme ça, un dangereux personnage, terreur du pays de Gadara. Nous voyons, et je le rappelle, cette barque aborde, je trouve Jésus, elle aborde l'autre rive du lac. Et là, il va y avoir un terrifiant spectacle, ou un spectacle véritablement époustouflant, étonnant. Et c'est celle d'un territoire qui est couvert de tombes. Voilà. Jésus va traverser, on connaît ce qui s'est passé, la tempête, etc. Et il va aborder. Mais là, c'est le calme. C'est même un silence de mort. Quand il va arriver, il va voir des tombes partout. C'est assez étonnant tout cela. Mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas inscrit pour rien dans notre Bible. Soudain, il y a cet homme qui va intervenir. On l'appelle du juste mot d'énergumène. Un énergumène, vous savez ce que c'est ? On l'utilise pour des gens qui sont un petit peu, vous savez, quel énergumène ! Mais quand vous regardez dans le dictionnaire, un énergumène a une signification d'un homme qui est possédé, d'un homme qui n'est pas tout seul. D'un homme dont on a du mal à définir finalement, eh bien, sa nature. Mais dans la réalité, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle de lui-même, en quelque sorte. Un énergumène, il surgit de cet endroit et il se précipite tout de suite vers Jésus. C'est quand même curieux parce qu'on en a parlé, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais Jésus, la personne de Jésus, va l'attirer. Et pourtant, cet homme n'est pas tout seul. C'est un homme qui a, nous pourrions dire aujourd'hui, qui fait la démonstration d'un dédoublement de personnalité. Il y a l'homme et puis il y a celui qui se cache derrière, bizarre, étrange, énergumène. Ça donne la signification. Et vous avez remarqué, il nous est dit qu'il est possédé d'un esprit impur. Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si nous faisons l'examen en détail, eh bien, nous allons voir que, d'après l'évangile de Marc, Marc nous en fait une description précise. Je relis et je répète un petit peu la fois dernière, mais c'est pas grave. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Voilà, ça c'est Marc. Et si vous avez remarqué dans la présentation de Marc, c'est peut-être l'évangéliste qui donne le plus de détails. C'est un petit évangile, Marc, mais c'est là où il y a le plus de détails dans les récits. Tous les récits n'y sont pas, comme on le trouve chez Luc ou chez Matthieu, mais il y a force de détails qui nous sont présentés. Les caractéristiques de cet homme, eh bien, nous les découvrons. C'est un homme qui est très violent et il est dangereux. On dirait aujourd'hui, c'est un fou furieux. dont on a intérêt à s'écarter. En plus, ils ne portent pas de vêtements. C'est pas forcément une attitude de civilisé. Hein. Ils vivaient, nous dit le texte, en retrait de la société et, savez-vous, devinez où ? Dans les sépulcres, donc dans les cimetières. C'est assez original. On le rencontrait sur les collines désertes, c'est-à-dire qu'il cherchait à s'éloigner de la vie en société. Il trouvait peut-être son repos dans les ravins escarpés. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. C'est un malade. Mais un malade dont on aurait certainement une grande peur de le rencontrer la nuit, hein. Comme je l'ai dit la semaine dernière à la pleine lune. Ah, il y a tout le contexte pour faire rêver, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours du mal, et je voudrais ajouter quelques petits commentaires personnels, mais j'ai toujours du mal à avoir cet appétit pour les gens d'aujourd'hui, comme de toujours, mais aujourd'hui, qui se régalent de cette cinématographie où il n'y a que des choses ternes, sombres, morbides, des choses comme ça. C'est curieux ce que les gens ingurgitent. Et il semblerait qu'ils ne peuvent pas s'en passer, c'est une addict. Alors, moi, j'ai jamais trouvé de goût à ça, au contraire, hein, terminé. Hein. Écoutez, mais oui, mais c'est la nourriture des gens d'aujourd'hui, et on le donne. Alors croyez bien que tout ça, ça ne vient pas de Dieu, l'inspiration ne vient pas de Dieu, parce que si c'est pour faire peur, quelquefois, ça va même jusqu'à être reproduit par des adolescents fragiles. Hein. Waouh, c'est quelque chose tout ça. Mais c'est notre monde. Mais on n'est pas surpris que Jean nous dit ceci dans son épître, que le monde entier gît dans le malin. Hein. On a besoin de lumière, et c'est pourquoi l'évangile est bien là. Voilà un homme, vraisemblablement, qui avait l'apparence de tous les signes de la vie. Il parlait, ce qu'il disait, ça ne devait pas être toujours cohérent, mais il parlait. Il se mouvait, il respirait, mais son existence, que nous pourrions qualifier de marginale, trahissait une grave anomalie. Il n'était pas comme tous les autres. Il y avait bien quelque chose. Il n'était pas comme tout le monde, car il ne pouvait s'exprimer ou faire ce qu'il désirait avec cet adverbe librement. Il aurait peut-être donné l'apparence pour des gens un petit peu marginaux d'aujourd'hui d'être vraiment libre. Je suis libre. Je dors où je veux. Je cours de ci, de là. Ça laissait entendre peut-être une liberté, mais il n'était pas libre. Et vous savez, devant les originaux ou l'excentricité de nos mondes d'aujourd'hui, vous savez que ce sont des gens qui sont liés et des gens qui ne sont pas libres du tout, tout en proclamant qu'ils sont plus libres que les autres, jusqu'à défier la société de leur manière dont ils se comportent, dont ils s'habillent, etc., etc. Alors ça, c'est une chose à souligner. On l'appelait vraisemblablement à juste titre le démoniaque. Il devait avoir une sacrée réputation dans le pays de Gadara. Ça, c'est certainement. Et le texte nous le rappelle, il était tantôt totalement ou partiellement sous le contrôle d'une force tyrannique qui le dominait. C'était certainement difficile de l'aborder. Hein. Quelquefois, il pouvait être très gentil et quelquefois, il pouvait être nous allons le dire, infernal. Ça, c'est... Et c'était pourtant un être humain. Mais c'était un être humain qui était redescendu à la condition animale, instinctif, en fonction de ses humeurs, en fonction de toutes sortes de choses. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu psychiatrique, c'est terrible, hein. Nous avons de nos semblables qui sont enfermés temporairement ou d'autres à vie, par décret administratif pour certains, parce qu'ils sont extrêmement dangereux, menaçant la vie des autres ou menaçant la société. Et alors on les enferme, parce qu'ils ne sont pas vivables, parce qu'ils ne sont pas là à pouvoir rester dans la société. Et la médecine se penche sur le problème en disant « qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Et il y a des choses quelque part qui sont tragiques, on le voit. Je ne suis pas là pour porter un jugement, mais certains, ayant commis des graves infractions, se relâchaient parce qu'on a pensé qu'ils étaient maintenant adapté à la société à vivre. Et on s'aperçoit que quelque temps après, très rapidement, eh bien, ils refont exactement la même chose. Et ils vont expliquer, mais c'était plus fort que moi. Gare, hein. Attention. C'est terrible. Et notre société, elle est comme ça. Et ça scandalise. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Comment les pouvoirs, le pouvoir judiciaire ou le pouvoir médical a pu relâcher de telles personnes? C'est curieux, hein. Ah, s'il n'y a pas de délivrance, hein. On peut s'attendre à des choses qui sont parfois même abominables. On peut dire que les démons contrôlaient son corps parce qu'ils manifestaient une forme de masochisme. Voyez? C'est-à-dire qu'il se faisait du mal à lui-même. Et dans son âme, la perception qu'il pouvait y avoir, qui pouvait se dégager, c'était un avilissement et une perte de la dignité humaine. Il criait, il se meurtrissait, il faisait ceci et cela. C'était épouvantable. Quant à son esprit, c'était la dérision, voire la folie, quand ça le prenait naturellement. Il était, malgré lui, poussé à vivre comme un animal. On l'a vu. Les démons lui donnaient une force surhumaine qui inspirait l'effroi autour de lui. Le texte nous le rappelle. On a essayé plusieurs fois, eh bien, de se saisir de lui, de lui mettre des chaînes, de lui mettre des liens, de l'entraver, et à chaque fois, eh bien, il n'y avait rien à faire. Et intérieurement, il était captif de plus fort que lui. Vous savez que Jésus nous racontera une petite parabole qu'il y a l'homme fort et l'homme plus fort dans l'évangile de Luc. On a fait déjà un commentaire là-dessus, je n'y reviens pas, mais pour montrer que l'homme fort, qui est l'image de Satan, a été vaincu par l'homme plus fort, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'évangile. Et tous ceux qui peuvent se sentir finalement là opprimés, en captivité, en prison intérieure ou extérieure, quelle que soit la forme, eh bien peuvent se dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, il n'a pas abandonné sa créature. Pour tous ceux qui écoutent le message de l'évangile, il y a un espoir. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, c'est important justement que cet évangile puisse aborder quelquefois, eh bien, cette notion de ce monde de ténèbres et la délivrance que Jésus peut nous apporter. Alors, il n'était pas libre, il était réduit à l'esclavage et il était une victime quelque part. On aurait pu le mettre en pièces. Où était sa responsabilité, sa culpabilité dans tout cela, hein? Ça peut être discuté, hein? Parce que c'était pas lui en réalité. Ce n'était pas tout lui. On voit des faits divers dans notre société, comme cet homme, il y a à peu près un an, qui a pris une, je ne sais quel fusil de guerre qui a tué là, vous savez, en Norvège, et qui se vantait devant le tribunal d'avoir eu raison d'avoir fait ce qu'il avait fait. Fou allié. Au procès de Nuremberg, ce qui pouvait rester de dignitaire de ce régime épouvantable de mort, personne n'avouait que personne n'était coupable, vous comprenez? C'est terrible, hein, ce monde. Et qu'est-ce qui nous attend par la suite? Rassurez-vous, nous avons le Seigneur, mais quand même. Moi, je me demande si pas l'Antichrist n'aura pas une dose, mais alors, de ce que nous parlons aujourd'hui, énergumène. Avec une présentation, avec l'intelligence, avec une puissance de séduction, ça laisse réfléchir. Parce que c'est déjà arrivé, mais ça arrivera encore. Alors voilà une autre forme de la réalité du mal. Un mal qui est caché, un mal qui est invisible. Et celui-ci est plus redoutable, finalement, parmi tous les autres, parce que cette atteinte à la création de Dieu, à l'humanité, c'est quelque chose qui est caché, qui est moqué, voire tourné en dérision. Le diable n'existe pas. Alors, expliquez-moi pourquoi il y a tant de milliers et de milliers de cabinets occultes, d'astrologues, de satanisme, de spiritisme et de toutes ces choses affiliées, de religions, voire qui, sous le couvert d'une religion, d'une prétendue religion, eh bien, ne sont que l'émanation finalement de l'enfer. Dans l'humiliation et la domination de l'homme. Alors, faut me l'expliquer, ça, parce que on a du mal à le comprendre. Pour dire ce que nous avons dit, quand l'humanité aura fini, aura enfin compris que ce n'est pas les mains et les pieds qu'il faut enchaîner pour calmer la démence ou les démences du monde, mais c'est le cœur qu'il faut conquérir. Qu'il faut d'abord dompter, et affranchir, alors à ce moment-là, il y aura de grands progrès. Et Jésus a envoyé l'évangile dans le monde pour que soit ça une bonne nouvelle pour tous les captifs. Et qu'ainsi, à ce moment-là, eh bien, nous comprenions vraiment la réalité de ce monde à double visage, de ce monde à double langage. Personne n'avait la force de le dompter, avons-nous lu. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, et il criait et se meurtrissait. C'était un agité de corps, un agité d'âme et un agité de l'esprit. Le physique, le psychique, était complètement et totalement ébranlé. On a parlé la semaine dernière que les hommes n'ont trouvé qu'une solution, non pas pour délivrer, mais pour calmer, pour apaiser, les médicaments. Mais c'est pas une délivrance. C'est peut-être qu'un apaisement. Alors les conséquences pour ce malheureux, c'était qu'il n'avait plus de repos, il n'avait plus de sommeil, et il avait perdu son équilibre. Vous savez, ça nous rappelle un peu notre société qui est complètement déséquilibrée aujourd'hui. Pour d'autres raisons, bien sûr. Mais société. Parce que peut-être que notre société aussi pêche que par infraction aux lois naturelles. Vous savez, quand on ne sait plus où se trouve le jour et la nuit, dans bien d'autres domaines que je ne cite pas mais que vous pouvez comprendre, alors qu'est-ce que l'on peut faire de cette société? Qu'est-ce que l'on peut faire sinon que nous avons une responsabilité, nous les enfants de Dieu, de prêcher l'évangile et d'apporter le témoignage finalement de la grâce de Dieu de celui qui délivre. L'identité intérieure, l'identité psychique était particulièrement malmenée de cet homme, nous l'avons dit. Et comme le temps a prouvé ce que nous avons devant les yeux, il était dans les sépulcres. Il faisait sa résidence ou sa maison dans les sépulcres, c'est-à-dire en bas. Et puis, il montait parfois en haut. Hein? C'est les montagnes. Cette vie déséquilibrée lui fait sentir probablement les vertigineuses fluctuations, finalement, de sa vie. Il passait tantôt de l'excitation, c'est-à-dire en haut, en bas. Donc, eh bien, la déprime la plus terrible pouvait-il vivre. Et ce sont les précipices de la dépression. Vous savez, ça porte un nom aujourd'hui, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais ça porte le nom de maladie bipolaire. Tantôt à la cave, tantôt au grenier. C'est terrible, hein. Et les gens qui vivent ça, moi j'en connais. C'est terrible parce que c'est vraiment un déséquilibre profond au niveau de la personne, de la vie intérieure. État de dépression, de langueur, de neurasthénie, des angoisses. Je veux pas dire que toutes les angoisses et toutes les dépressions sont d'origine comme nous en parlons, hein. Surtout pas, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y en a qui sont prisonniers de cela. Ce n'est plus un accident de parcours dans la vie, mais c'est un état permanent. Quelle vie gâchée. Et quelle misère. Prions, hein. Pour ceux qui passent par des moments comme ça, hein. Même nos frères et nos sœurs qui touchent quelquefois à la dépression avec tout ce qui s'ensuit. Prions pour eux. Il nous est dit qu'il criait également, faire du bruit. Voilà, caractéristique de cet homme, de son état. L'ivresse du bruit, on pourrait dire ça aussi, s'agiter dans le bruit pour apaiser ses angoisses. Est-ce que ce n'est pas ce que produit notre monde aujourd'hui pour que les gens ne pensent pas et ne réfléchissent pas? Et qu'ils soient pris dans, finalement, eh bien là, un train de choses épouvantables. Alors à ce moment-là, eh bien, on passe d'une chose à une autre, on se met dans le bruit, puis... Mais c'est très difficile d'écouter Dieu nous parler dans ce contexte. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, je ne sais plus à quel chapitre, il nous est dit qu'à la fin des temps, le bruit va s'arrêter sur la terre. On n'entendra plus le joueur de flûte, on n'entendra plus ceci et cela. Ça va être terrible, les gens vont avoir du mal. Imaginez-vous que pendant un instant, pendant une journée, il n'y ait plus aucun bruit sur la terre. Les dents va déprimer, hein. Waouh, c'est le vide. Eh oui. Alors, c'est un peu notre société qui est en train de se détraquer, justement, à cause de ça. Elle ne s'en aperçoit pas, mais elle y va dans tout cela. Et c'est vrai que, je le répète, mais Jean a raison quand il dit que le monde entier gît dans le mal. Il y a un grand besoin d'évangélisation, hein. Il y a bien un grand besoin pour faire prendre conscience aux gens, eh bien que, sans le savoir, ils sont profondément malheureux et ils sont perdus. Le rythme, l'atmosphère, tout ce qui peut être fait. Ce sont des moyens d'évasion que l'homme a fabriqués pour échapper à la réalité de leur misère, à la hantise d'être seul avec soi-même, de faire face à face, de réfléchir. Et vous savez, la solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est Jésus qui nous donne cette compréhension des choses quand il parlera de l'œil. Mais pas de l'œil, pas de ses yeux qui sont là, mais de l'œil intérieur. Vous savez ce qu'il nous dit ? Eh bien, simplement, il nous le rappelle, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Et vous savez ce que nous avons besoin ? C'est d'être guéri de l'intérieur. Et la première chose, quand un homme se convertit, Dieu commence à le guérir de l'intérieur. Ouais. Et cette guérison chasse la dépression, l'angoisse, nous ramène à la paix, nous ramène au repos. C'est pour ça que dans ce même texte que j'ai cité tout à l'heure, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés et pour donner la vue aux aveugles. C'est une vue spirituelle dont nous avons besoin. Et mes frères et sœurs, restez bien près du Seigneur pour pas perdre la vue spirituelle. Et vous savez ce qu'il faut faire pour ça, naturellement. Il criait, on a parlé du bruit. Il se meurtrissait avec des pierres. C'était un malheureux, rappelons-le, un désespéré. Et il se faisait du mal à lui-même. Il y a des gens qui ne feront pas de mal aux autres. Ils peuvent être profondément malheureux psychiquement, mentalement, spirituellement, mais ils ne font pas de mal. Le mal se reporte sur eux. Et il pratiquait ce que l'on appelle de l'autodestruction, qui peut aboutir, hélas, à cette tragédie dont nous entendons parler tous les jours, c'est le suicide. Moi, je crois que derrière le suicide, je ne veux pas en parler d'une manière générale, mais il y a des esprits de mort qui poussent les gens à véritablement mettre un terme à leur vie. Ce sont des désespérés. Et ne jugeons pas ceux qui font de tels actes, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de cette affaire. L'Église, pendant des siècles, a été impitoyable et a condamné d'une manière infernale ce genre de choses. Vous savez qu'au Moyen-Âge, un homme ou une femme qui se suicidait, alors en plus de ce qui s'était suicidé, vous savez ce qu'on faisait ? On le coupait en petits morceaux et on le brûlait au bûcher. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Mais qu'est-ce qui amène un homme ? Qu'est-ce qui amène une femme quelquefois à mettre un terme ? Dans le désespoir, il y a des pensées de mort, des pensées morbides. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Et c'est ce qui se faisait, hein. L'homme normal que nous sommes les uns les autres, eh bien, nous faisons tout pour préserver instinctivement la vie, notre vie. Dans le cas contraire, l'appel de la mort est antinaturel et trouve son inspiration dans les forces invisibles des ténèbres. Le processus commence par une suggestion. T'es malheureux? Tu te trouves devant une situation, hein, impossible à solutionner. Ça commence à se passer dans la tête. Puis ça devient une obsession. Ça se fait dans le temps, naturellement. Et enfin, le passage à l'acte qui devient irrésistible. C'est un travail de sape. Le diable fait un travail de sape dans les êtres qui se fait à l'insu de l'homme parce qu'il pense que les pensées qui sont en train d'évoluer dans son esprit, dans son âme, ça vient de lui. Non. C'est comme celui qui a soufflé à Ève, vous savez, au premier jour de l'humanité. Mais est-ce que Dieu existerait ? Est-ce qu'il a vraiment dit quelque chose ? Et le meurtrier va continuer à faire son œuvre par un concours de circonstances bien orchestrées, à travers le découragement, à travers la désespérance, en nous faisant passer par des déceptions, par l'épuisement, par la lassitude. Cela va finir par paralyser notre volonté de résistance et le tout rejouer. Et en désespoir de cause, reste la mort. C'était un homme qui était sous des forces de suicide. Il se meurtrissait, voilà. Voilà les manœuvres diaboliques de l'ennemi de l'homme. Si le monde voulait sortir, et encore une fois de plus, faut-il le rappeler, si le monde voulait sortir de son rationalisme où il explique tout et il n'explique rien. Parce que ce rationalisme lui clôt les yeux. Alors il comprendrait le pourquoi de beaucoup de drames de l'existence. Certainement, l'homme de Gadara, qui est un cas extrême, manifestement témoigne de la condition d'un être enlacé, d'un être ligoté, dédoublé, livré à mille forces qui se déchaînent sur lui, le maltraite et le fait souffrir pour le détruire. C'est assez intéressant de prendre en compte que cette histoire nous est donnée dans la Bible pour informer et renseigner les chrétiens. Job dira, pressentant qu'il y a quelque chose, que le malheur ne naît pas de la poussière, mais que le malheur vient d'ailleurs. Relisez le chapitre 1er et le chapitre 2 du livre des Job, et vous verrez, vous allez comprendre, parce que c'est très éclairant comme situation. Je continue avec le verset 6 et 7. Il est dit ceci, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Quand le démon ou les démons, on va les mettre au pluriel parce que vous allez comprendre pourquoi, supplie Jésus de ne pas le tourmenter ou de les tourmenter, eh bien, il montre qu'il a conscience de son sort éternel qui l'attend. Le diable est damné. Il est perdu. Et quand il dit à Jésus, surtout ne me touche pas, ne m'envoie pas dans l'abîme, c'est qu'il est conscient finalement qu'il n'y aura jamais de rédemption pour le diable. Parce que l'abîme est sa prison éternelle. On l'appelle communément l'enfer, mais c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, le mot enfer. Je tiens à vous le dire. Le verset 9 poursuit. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. L'ordre d'avoir à dire leur nom ou son nom révèle le nombre, c'est-à-dire légion. C'est quand même assez curieux qu'il y ait des hommes et des femmes, comme lui par exemple, qui n'étaient pas non seulement tout seuls, mais qui comporte finalement, eh bien là, il est le réceptacle, il était le réceptacle de toutes sortes d'esprits mauvais et méchants. Et de dévoiler, de l'intimer d'ordre, de dévoiler leur identité, eh bien, comme Jésus le demande, va priver les démons, va priver le démon de toute possibilité d'échapper à la souveraineté ou à la souveraine action de Jésus. Vous avez remarqué avec moi, les démons, le démon parle à travers la bouche de l'homme. À s'y méprendre, on croirait que c'est l'homme qui parle. C'est pas vrai. Il va dire légion. Nous sommes légion. Il y a un autre exemple patent dans l'évangile d'une délivrance d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Que Jésus la délivra de 7 démons. Alors déjà, quand on en a un, c'est déjà quelque chose. Mais là, c'était plus que 7 certainement pour le gadarénien. C'était une véritable possession. Alors, il faut voir les choses comme elles doivent être vues. Il peut y avoir de la perturbation dans les vies humaines. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas voir tout le monde possédé, hein. Parce que autrement, là, on va tomber véritablement dans l'extrapolation et puis dans la folie, hein. Mais là, c'est un cas qui nous est donné. C'est un cas extrême. On va un peu plus loin. Il nous est dit au verset 11, « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits sortirent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. » Les esprits mauvais peuvent s'attacher à un habitacle déterminé. L'habitacle déterminé dans notre récit, c'était cet homme. Les puissances impures avaient élu domicile dans un corps d'homme, dans une personnalité. Vous remarquez avec moi que la Bible nous enseigne qu'ils peuvent aussi trouver leur demeure dans des animaux. À l'ordre de Jésus, nous voyons que là, à ce moment-là, les démons vont quitter cet homme. C'est pour vous dire qu'il devait y en avoir, hein, quand il est dit qu'il s'appelle Légion. Et quand il nous est donné le nombre des pourceaux. Des pourceaux, ce sont des cochons, hein, d'accord? Alors, 2000, imaginez-vous, hein, ce que ça pourrait représenter. Donc, dans un corps d'homme, ou alors parfois dans des objets, et parfois même dans des maisons. Alors, on va pas extrapoler là-dessus, mais... Si vous achetez une maison, hein, renseignez-vous, ou alors vous la faites neuve, Et encore, on ne sait jamais. Voilà. Vous allez en Roumanie, il y a des châteaux à vendre là-bas. Bon. Sortis de l'homme possédé, les démons se précipitent dans le troupeau qui, à son tour, pris de folie. Parce qu'il faut observer la suite des choses, hein. Pris de folie, court se noyer dans la mer. Il y a derrière cette possession de cet homme et de tout ce que cela peut véhiculer un esprit de mort. Puisque, mais c'était une bonne leçon pour les gens de Gadara qui finalement, à proximité d'Israël, élevaient des porcs. Ça vous dit quelque chose? Selon la loi de Moïse? Allez dedans, là, ils n'ont pas dû manger du jambon pendant quelques jours, hein. Ça, mais enfin, il y a toute une ironie derrière, hein, dans le texte, hein. Eh oui. Même si c'était des gens de, des paysans païens et tout ce que vous voulez. Donc, pris de folie. Et c'est un phénomène, apparemment, qui pourrait passer pour un phénomène naturel. Les pourceaux sont d'un seul coup, ça leur a pris d'un seul coup, et ils vont se précipiter dans la mer. Vous savez, derrière certaines catastrophes, comme nous en parlions dernièrement, il y a des choses dont nous pouvons nous poser comme question. On appelle ça des séries noires, vous comprenez? C'est tout un enchaînement de choses. Et c'est quand même assez curieux, mais il y a la destruction, la signature, c'est la destruction. Je termine par cette conclusion, verset 14. Il est dit, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, qui avait eu. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier de Jésus de quitter leur territoire. C'est quand même assez étonnant là aussi. L'homme délivré est présenté, selon les termes, apaisé, vêtu décemment dans son bon sens. Et il nous est dit dans l'évangile de Luc, en prolongement de ce récit, cette petite particularité, il était donc assis aux pieds de Jésus. Et il va même faire la demande à Jésus de rester avec lui. Ce que Jésus va lui répondre, non, tu vas pas venir avec moi. Tu es certes mon disciple, tu as fait une expérience extraordinaire, merveilleuse, mais maintenant va dire à tous ceux qui sont autour de toi ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est-à-dire qu'il va aller devenir l'évangéliste de la région de Gadara, lui. Mais avec un tel témoignage, ça devrait marcher quand même, hein. Quand on l'a connu comme la terreur du pays et qu'il devient un homme, un porte-parole, un apôtre, avec toutes les caractéristiques de la douceur et des fruits de l'esprit de Jésus, quelle transition! On comprend qu'après avoir vécu ce phénomène, les gens du pays de Gadara, quand ils lui ont dit, mais tu te retires de nous, vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là préféraient encore le monde de culte, le monde des ténèbres, l'erreur et le mensonge à la vérité. Et Jésus les embarrassait terriblement. Parce que pour accepter Jésus, il faut se convertir. Il faut se repentir de nos œuvres ténébreuses. Et peut-être s'il y a des amis qui nous rejoignent ce matin et que vous avez touché à l'occultisme, eh bien il y a une urgence. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Vous l'avez peut-être fait dans l'ignorance, parce qu'on l'a toujours vu faire chez vous, ou peut-être dans votre milieu. Mais moi je dis que toucher à ce monde invisible, c'est une gravité que nous ne pouvons pas mesurer. Parce que ça, c'est le péché de l'esprit. On ne rentre pas en communion avec Dieu et sa sainteté et sa vérité et sa lumière et son ciel, mais on rentre dans le monde des ténèbres. C'est très dangereux. En d'autres termes, cet homme avait recouvré son entière personnalité. Oui, vêtu dans son bon sens. Il avait retrouvé sa dignité, sa santé, et il était devenu un homme libre. Il avait été libéré par Jésus, qui fait écho à ce que Jésus nous dit, nous enseigne dans Matthieu chapitre 8. Il est dit ceci, verset 36, peu importe. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ouais. Et c'est vrai pour nous. Je le rappelle, c'est un cas extrême, mais il peut y avoir également, dans une autre dimension, parfois des frères et des sœurs qui sont perturbés, qui ne sont pas possédés, ils ne sont même pas habités, mais le diable agit pour essayer de pourrir leur existence, dans leur pensée, dans leur conscience, à travers toutes sortes de choses. Et ils sont malheureux. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La solution est une solution spirituelle. Elle est spirituelle, évidemment, et passe par le pouvoir de délivrance de Dieu à travers la personne de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce sont des citations bibliques. Alors ce matin, regardons à Dieu, à son diagnostic qui nous est donné par sa parole, à la lumière de l'Évangile, manifestant une volonté et un désir, voire un cri, un soupir d'être délivré. Le Seigneur entend nos cris, il entend nos soupirs, et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va nous apporter ce pourquoi il est venu et il est mort sur la croix, puisque cela, c'est aussi une affirmation de la parole. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ouais. Il est venu, il a vaincu, et nous sommes vainqueurs avec lui. Alors, si je reprends et paraphrase cette parole de cet homme qui était en prison, mais lui, il était geôlier, mais il était en prison quand même, hein, à la différence qu'il pouvait rentrer le soir chez lui. Il était en prison. Vous connaissez l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Il dira cette parole, « Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé ?» Et moi, je vais dire, « Que faut-il faire pour être délivré, Seigneur ?» Alors que le Seigneur nous aide. C'est le dernier volet de l'histoire du Gadarénien. On repassera à autre chose parce qu'il y a d'autres textes qui nous parlent de la délivrance, qui nous parlent de libération dans la foi, par l'Évangile. Eh bien, moi, je veux répondre, que faut-il faire pour être délivré? Moi, je réponds, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme au ciel et sur la terre. Comme elle est faite au ciel, moi, je veux qu'elle soit faite sur la terre. Et je veux qu'elle soit faite aussi pour moi. Alors, rien de commun, mes frères et sœurs, avec peut-être les perturbations que nous pouvons connaître dans notre humanité. Celle-ci, c'est terrible. Mais une chose qui est rassurante pour chacun d'entre nous, si Jésus a été capable de faire le plus, pour nous, il peut faire le moins, hein. Naturellement. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et nous allons prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que si de telles histoires, c'est vrai, qui sont tellement surprenantes, eh bien sont écrites, inscrites dans la parole de Dieu, c'est que tu veux que les choses demeurent à travers tous les temps et tous les siècles et les hommes d'hier comme les hommes de notre temps, les hommes de notre génération puissent savoir que notre monde n'est pas un monde neutre, et qu'il y a là, Seigneur, une dimension spirituelle divine, une dimension pure, une dimension de vie, une dimension, Seigneur, d'épanouissement et d'abondance, mais qu'il y a aussi une autre dimension, par laquelle, Seigneur, eh bien, en effet, les hommes, souvent dans leur inconscience et dans l'ignorance, ne mesurent pas toute la dangerosité. Et c'est vrai, Seigneur, le monde, il est fait de bien et de mal, il est fait de vérité et de mensonge, il est fait de lumière et de ténèbres. Et avant d'avoir été un jour éclairé, Seigneur, par le message merveilleux de l'Évangile, eh bien, nous ne savions pas tout ce que pouvait comporter. Eh bien, Seigneur, en effet, telle altération de telle personne, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi, eh bien, le mal, les crimes, les meurtres, les folies, les démences, eh bien, à quoi cela pouvait-il correspondre? Nous étions dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, Seigneur, ta parole, par cet exemple, et comme bien d'autres exemples, nous montre qu'il y a derrière, Seigneur, l'homme qui se refuse de croire en Dieu, qui, en effet, se cantonne dans son incrédulité, eh bien qu'il y a là un monde qui manipule. Il y a ce que nous pourrions appeler le grand marionnettiste, qui fait croire, Père éternel, que la vérité, c'est l'erreur, et que l'erreur, c'est vraiment la vérité. Seigneur, éclaire-nous. Éclaire nos cœurs. Et moi, je vais te prier particulièrement pour mes frères et mes sœurs, qui sont peut-être un peu à l'image de cette femme, oui, Seigneur, qui était courbée depuis si longtemps et qui ne pouvait pas se relever. Eh bien, je te demande, Seigneur, nous te prions tous ensemble pour ces frères et ces sœurs que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, peu importe. Une chose qui est certaine, c'est que tu les visites, Seigneur, parfois, dans des infirmités physiques, que ce soit, Seigneur, dans des maladies qui n'en finissent pas, que ce soit, Seigneur, dans des altérations, Seigneur, de leur conscience, que ce soit, Seigneur, à travers des perturbations de, Seigneur, de dépression, d'angoisse, de neurasthénie, non pas, Seigneur, des choses occasionnelles, parce que ça peut arriver à tout le monde, mais des états permanents. Seigneur, dans le nom de Jésus, éclaire-les, afin qu'ils puissent crier à toi et te demander ton secours que tu ne manqueras pas de leur donner. Seigneur, nous voulons le faire pour eux. Seigneur, délivre. Révèle-toi, manifeste-toi, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Et merci, Seigneur, parce que en Jésus-Christ, je suis libre. En Jésus-Christ, je suis libéré ce matin. En Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, le Saint-Esprit fait son œuvre, corps, âme et esprit. Merci mon Dieu. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.